Un échantillon. À Ganza, les corps de la plupart des victimes n'ont pas été retrouvés. Autre dossier prioritaire, les dizaines de viols commis par la milice pro-gouvernementale Banamoura. Le dossier est ouvert, mais l'enquête piétine. Un cas sur lequel le gouvernement de Joseph Kabila avait beaucoup insisté. À Kamwecha, où 39 policiers auraient été exécutés par les miliciens Kamuina Tsapu. Une trentaine de tombes ont été localisées par drone, mais elles sont ouvertes et vides. Pour tous les autres cas, les enquêtes de la justice militaire n'ont pas véritablement commencé, faute de volonté et de moyens, dénoncent victimes et société civile. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI.
Et les victimes qui lancent un appel au gouvernement et au président pour que les procédures aboutissent.
Radio G. www.radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible.
J'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous vous présentons aujourd'hui le livre d'Ahmet Altan, « Je ne reverrai plus le monde », paru chez Actes Sud en 2019. Ahmet Altan est une figure incontournable du journalisme turc. Il a été rédacteur en chef du quotidien Taraf jusqu'en 2012. Il est également romancier et essayiste. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, une tentative de coup d'État a lieu en Turquie, principalement à Istanbul et Ankara. Parce qu'il est apparu à la télévision la veille, on accuse Ahmet Altan et son frère Mehmet d'avoir appelé à l'insurrection. Dès le 17 juillet, une vague d'arrestations commence.
Je suis réveillé. On sonnait à la porte. J'ai jeté un œil au réveil électronique à côté de moi. 5h42. Les chiffres clignotaient. La police, me suis-je dit. Comme tous les opposants de ce pays, chaque soir, je m'endormais, imaginant qu'à l'aube, on frapperait à ma porte. Je savais qu'ils viendraient. Ils sont venus. J'avais même préparé des habits spécialement pour mon arrestation et les jours qui suivraient. Un pantalon noir en lin serré à la taille par un lacet intérieur, de façon à pouvoir me passer de ceinture. Des sockets noirs s'arrêtant à la cheville. Des chaussures de sport souples et confortables. Un t-shirt en coton léger et une chemise de couleur foncée. J'ai enfilé ma tenue d'arrestation et je suis allé ouvrir la porte. J'ai d'abord regardé par le judas. Des policiers attendaient sur le palier, revêtus de gilets sur lesquels on lisait, écrit en grosses lettres au niveau de la poitrine, TEM. Les membres de la brigade antiterroriste en tenue d'intervention. Ils étaient 6. J'ai ouvert la porte. Mandat de perquisition et d'arrestation, ont-ils dit en entrant. ils ont laissé la porte ouverte derrière eux. Ils m'ont dit qu'ils avaient aussi ordre de mettre en garde à vue mon frère Mehmed, nous habitions le même immeuble, et qu'ils avaient envoyé une équipe devant sa porte, mais qu'ils n'avaient pas ouvert. Ils ont sonné à quel numéro, vos collègues ? Bien évidemment, ils s'étaient trompés d'appartement. J'ai téléphoné à Mehmed. « On a de la visite, ouvre ta porte, lui ai-je dit. » Quand j'ai raccroché, un policier a tendu la main vers mon téléphone. Je le prends, et il me l'a pris. Ils se sont séparés pour fouiller l'appartement. Le jour se levait. Affleurant au-dessus des collines, les rayons du soleil se diffusaient en vagues violettes, mauves et lilas, dans un ciel qui paraissait une rose blanche. Un paisible matin de septembre s'éveillait, ignorant tout de ce qu'il se passait chez moi. Les policiers fouillaient toujours. J'ai fait du thé. « Vous voulez du thé ?» leur ai-je demandé. Ils n'en voulaient pas. Imitant la voix de mon père, j'ai ajouté « C'est pas un pot de vin, vous pouvez en boire. » 45 ans plus tôt, un matin encore, ils avaient fait irruption chez nous, pour mon père cette fois. Il leur avait demandé s'ils voulaient du café, et quand ils eurent refusé, il leur avait répondu en riant « C'est pas un pot de vin, vous pouvez en boire. » Ce que je vis n'a rien d'un déjà vu. C'est la répétition d'une même réalité. Comme ce pays ne se déplace que très lentement dans le cours de sa propre histoire, le temps n'y fait jamais marche arrière. Il se retourne pour s'appesantir sur lui-même. 45 ans plus tard, le temps se retournait sur un matin identique. 45 ans d'un seul matin pendant lequel mon père était mort et où j'avais vieilli, mais dont l'aube et ses intrus demeuraient inchangés. Sur le seuil de la porte grande ouverte, j'ai aperçu Mehmed et son sourire, toujours si réconfortant pour moi. Il était encerclé de policiers. Nous nous sommes dit adieu. Les policiers ont emmené Mehmed. Je me suis servi du thé. J'ai vidé dans un bol un paquet de muesli auquel j'ai ajouté du lait. Je me suis assis dans un fauteuil et sirotant mon thé et mangeant mon muesli, j'ai entrepris d'attendre que les policiers finissent de fouiller mon appartement. Tout était silencieux. On n'entendait pas d'autre bruit que ce que les policiers, dans leur fouille méticuleuse, faisaient en remuant mes affaires. Ils ont pris mon vieil ordinateur de 20 ans. Je n'avais jamais pu me résoudre à le bazarder à cause d'un lien sentimental. Quelques-uns de mes romans avaient été tapés sur ce clavier, et aussi des disquettes démodées qui s'entassaient dans un coin. L'ordinateur portable, dont je continuais de me servir. Ils ont tout embarqué dans des grands sacs en nylon. « On y va », ont-ils dit. J'ai pris le sac où j'avais glissé d'avance quelques bouquins au milieu du linge de rechange. Nous sommes sortis de l'immeuble. Une voiture de police banalisée attendait devant la porte. Nous sommes montés dedans. Je me suis assis avec mon sac sur les genoux. Ils ont fermé la portière.
Lors de son procès, Ahmet Altan n'hésite pas à questionner et critiquer le système judiciaire turc.
L'aube approche, mais il fait encore noir. Mehmed et moi patientons au 7e étage du palais de justice, dans un couloir dont le sol pailleté de mica fluorescent évoque une cafétéria de province américaine. Une douzaine de policiers montent la garde autour de nous. Dès le début de l'audition, nous avons demandé au juge. On nous a arrêtés à cause d'un message subliminal et maintenant ce chef d'accusation a disparu. Qu'en est-il et pourquoi ? La réponse que nous a donnée le juge avec un large sourire ironique mérite d'ores et déjà de figurer dans tous les manuels de jurisprudence et d'histoire du droit. Disons que nos procureurs aiment employer des termes qu'ils ne comprennent pas. En résumé, si nous croupissions depuis 12 jours dans les cachots de la police, c'était à cause d'un procureur qui avait pris plaisir à employer un mot qu'il ne connaissait pas. Le juge ne disait pas autre chose. Il a ensuite commencé à nous poser des questions. Ne pouviez-vous pas vous douter que ces gens-là allaient tenter un coup d'État ? Avant d'ajouter avec un sourire satisfait, « Moi, je m'en doutais. » Nos avocats sont intervenus. Ne pas se douter d'une tentative de coup d'État n'est ni un crime, ni même un délit. Aucune accusation de cet ordre ne saurait peser sur nos clients. Le juge s'est redressé. « Mais je n'accuse personne, mon cher. On discute, c'est tout. » Puis une autre question étrange. « Vous avez déclaré que le gouvernement commettait des irrégularités et enfreignait les lois. » Nos avocats se sont de nouveau interposés. Les leaders d'opposition aussi ont accusé le gouvernement d'enfreindre la loi. De telles déclarations n'ont rien à voir avec une tentative de putsch. Cette fois, le juge n'a rien répondu. Il s'est tourné vers moi. « Si seulement vous aviez continué à écrire des romans au lieu de vous mêler de politique. » Peu avant l'aube, nous étions devant le tribunal, chargés d'une demande d'incarcération pour tentative de coup d'État, face à un homme qui prétendait nous dire notre fête. Je me suis énervé pour de bon. D'abord, vous nous placez en garde à vue à cause d'un message subliminal que nous aurions prétendument diffusé, puis sans raison, vous changez le motif, nous accusant cette fois d'être des putschistes. Or, quand bien même vous mettriez sur le dossier tous les procureurs et tous les juges de ce tribunal, vous ne trouveriez pas la moindre preuve de notre participation à ce putsch. Puis Mermed a ajouté « J'ai passé toute ma vie à combattre les putschistes et les coups d'État. Et maintenant, sous prétexte que nous critiquons le pouvoir, vous nous accusez d'avoir participé au putsch. Sans aucune preuve d'ailleurs, puisqu'il ne peut pas y en avoir. » Le juge a levé la séance pour délibérer. Le matin approche, mais il fait toujours noir. Nous attendons le verdict du juge. Est-ce qu'on rentrera chez nous ou bien en prison ? Un juge, seul, avec ses questions farfelues, va décider de notre sort. Nous sommes crevés, abattus. Une troupe de flics nous entoure. Je regarde par la fenêtre. La ville est silencieuse, elle dort, les avenues sont vides, les réverbères semblent éteints. Il y a du mouvement. Le juge rend son verdict. On nous ramène dans la salle d'audience. Le juge commence à lire le verdict. Le dénommé Ahmed Hussein Altan est remis en liberté provisoire. J'écoute la fin du verdict en me préparant à exploser de joie. Mehmed Hassan Altan est maintenu en détention. Aussitôt, une douleur physique d'une violence inouïe, comme si on m'avait enfoncé une barre de fer dans le foie pour la faire ressortir par le dos. Et en même temps, une colère énorme, un immense désespoir. Mehmed se retourne et me sourit. Il est heureux que je reparte libre. Les policiers nous font redescendre. Une voiture de police attend Mehmed pour le conduire en prison. Nous nous embrassons. Mehmed me console. Ne sois pas triste. C'est bien qu'il y en ait un de nous deux qui soit dehors. Il l'embarque. Je regarde la voiture s'éloigner. Je m'aperçois que je n'ai rien trouvé à dire au moment de me séparer de lui. Deux policiers viennent m'escorter. Ils me libéreront dès qu'on aura quitté le bâtiment du palais de justice. Ils ouvrent une porte métallique. Nous pénétrons dans un couloir. Devant moi, un spectacle qui ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir jusqu'ici. Des milliers de dossiers roses gisent au sol, entassés les uns sur les autres, comme des tortues mortes. Des dossiers remplis de noms, de trahisons, de crimes, de faillites, de divorces, de rixes. Des vies englouties dans les profondeurs d'un bâtiment dédié à la justice. Le cimetière secret des dossiers roses. Nous nous frayons un chemin à coups de pied dans les dossiers. Les couloirs n'en finissent jamais, les dossiers non plus. Quand mon pied écrase un dossier, une sensation désagréable m'envahit. comme si c'était un homme que je piétinais. Au bout du couloir, des escaliers, nous montons. Ils ouvrent le portail et me laissent dehors. Le jour se lève. Je frissonne dans la fraîcheur du petit matin. J'inspire une grande bouffée d'air. Je suis libre, je suis en colère et je suis triste. Je ne sais pas encore que ma tristesse sera de courte durée, que le soir même un ordre d'arrestation sera émis contre moi. Ils m'enverront dans la prison où ils ont envoyé mon frère. Allongé. Silence. Un silence profond, extrême. Pas un bruit, pas un mouvement. La vie soudainement s'était figée, elle ne bougeait plus. Froide, inanimée. La vie était morte. Morte tout d'un coup. J'étais vivant et la vie était morte. Alors que je croyais mourir et que la vie continuerait, elle était morte et je lui survivais. Il me fallait lui insuffler de l'âme. Il me fallait recréer la vie à partir de ma propre respiration, tel Dieu qui créa l'homme en soufflant sur la glèbe. Quel était donc ce souffle qui ravive la vie? Comment saurais-je l'animer? Ce miracle ne portait qu'un nom, rêver. Comme Dieu, regardant un tas de glèbe, avait rêvé ce chaos qu'on appelle l'homme, moi, spectateur d'une vie morte, semblable à une poignée de boue, je rêvais d'une autre vie. Je lui insufflerais mon propre souffle. Pareil à un bédouin qui sait où trouver, au milieu du désert infini, l'oasis qui étanchera sa soif, j'avançais d'un pas décidé vers la source bien connue des rêves qui grouillaient en moi. Là, ma peur a rencontré la réalité. La source était tarie, l'oasis disparut. Le rêve se refusait à moi, impossible d'en concevoir même un seul. Mon esprit était pétrifié, aucune image ne s'y dessinait. Les secrètes visions du monde des rêves demeuraient collées, immobiles et figées, au mur de ma conscience, comme des fresques qui s'estompent. Alors, j'ai eu peur. Prisonnier dans le cadavre d'une vie morte, incapable d'un geste, impuissant à me libérer. Le souffle me manquait. J'étais au fond d'un vide où la mort m'ôtait l'air. Tel un Dante descendu en enfer sans son Virgile, je glissais toujours plus bas dans les étages de la vie morte, jusqu'à atteindre celui du plus terrible châtiment. L'étage où se trouvait le temps, reptile géant que je voyais ramper vers moi, alourdi, ralenti par le poids de la vie morte dont était faite sa masse indéchirable. Ici, nulle heure pour accélérer le temps en le fractionnant, heure, minute, seconde. Pas le moindre mouvement, ni rêve, ni pensée pour morceler le temps. Le temps n'était plus qu'un seul bloc, un reptile géant. Désormais impossible à isoler ni dissocier, les instants, soudés les uns aux autres, formaient une masse toujours plus énorme, montagne gélatineuse et transparente qui m'empoissait de tous côtés, écrasant mon esprit, mon âme, mon corps, pénétrant mes narines, ma bouche, une lente asphyxie. Tempus absoluto, le temps absolu. Temps qui, selon Newton, s'écoule à la même vitesse en tout point de l'univers sans que l'homme n'en perçoive rien. Il avait quitté l'univers pour venir s'abattre sur moi, qui ne pouvait lui échapper, dans ce poste de secours crasseux fermé par un verrou de fer. Maintenant, je comprenais pourquoi les hommes avaient inventé ces horloges dont ils ornaient leurs rues, leurs places et leurs clochers. non pas pour savoir l'heure qu'il est, mais pour scander le temps afin de s'en affranchir. Et coincé dans ce trou sans rêve et sans remous, sentant mes poumons exploser sous le poids de ce temps bloc qui m'écrasait sous lui, j'ai compris d'instinct plutôt que de raison qu'il me fallait fabriquer un temps nouveau, inventer une horloge inédite. En zigzaguant un peu, il y avait 18 pas d'un bout à l'autre de la pièce. Si je marchais lentement, chaque pas durait une seconde et 10 trajets 180 secondes, c'est-à-dire 3 minutes. J'ai ramassé un journal qui traînait par terre et je l'ai déchiré en 10 morceaux. Tous les 180 pas, je posais un petit papier sur un coin de table. Quand il y en avait 10, c'était qu'une demi-heure venait de passer. J'avais inventé une horloge faite de coupures de journaux. On m'avait transféré ici après 12 jours passés sans air ni soleil dans une cellule souterraine de la direction générale de la police. J'étais épuisé. Aussi ai-je fini par m'écrouler à force de marcher et remarcher d'un bout à l'autre de cette infirmerie désaffectée qui me tenait lieu de prison. Mais je me suis relevé. Il fallait que je marche pour que l'horloge tourne, que le temps passe. J'étais le balancier de la pendule. Si je m'arrêtais, elle s'arrêtait aussi. Le temps absolu était sur moi. Je marchais sans cesse. Le balancier me faisait mal partout, mais je ne m'arrêtais pas. Or, si j'avais réussi à diviser le temps en secondes et minutes, il me tardait encore de savoir quelle heure de la journée il était. Je me bagarrais avec le temps dans la poussière d'une infirmerie désaffectée, fermée par un verrou de fer. J'avais besoin d'armes. Quand le soleil était au zénith, ses rayons divisaient en deux parties égales la petite cour de pierre que je voyais depuis ma fenêtre, une moitié dans l'ombre et l'autre dans la lumière. Puis celle-ci glissait lentement à l'assaut du mur d'en face. Vers 18h, 18h30, selon mes estimations, elle atteignait le sommet du mur et disparaissait. Il fallait donc 6h à la lumière pour gagner le faîte du mur d'en face. Je divisais à vue d'œil en 6 parts égales la distance comprise entre le milieu de la cour et le bord supérieur du mur. Aussi pouvais-je désormais savoir l'heure qu'il était. J'avais inventé mon cadran solaire. Victoire décisive sur la vie morte et son vide massif. Peu à peu, pas à pas, j'avais fait obstacle à ce temps reptilien qui me broyait les poumons. 3 jours durant, je n'ai fait que marcher. Hormis ces moments où, m'écroulant de fatigue, je tombais sur mon lit et sombrais dans un sommeil proche de l'évanouissement. J'ai marché. J'ai compté mes pas. À la fin de ces 3 jours, alors que je m'éveillais d'un nouvel évanouissement, j'ai senti qu'un miracle s'était produit. Mes rêves étaient revenus. Penché sur moi, la Scheherazade des contes me souriait en secouant sa riche chevelure. Les fresques s'animaient. Les eaux de l'oasis jaillissaient. J'avais trouvé le souffle divin qui anime la glèbe et à la vie donne vie. J'étais de nouveau maître de la vie et du temps. J'avais fait naître Dieu. 5 jours plus tard, il me sortait de là. Je suis sorti le sourire aux lèvres, le sourire de Moïse revenant du mont Sinaï. Depuis, je vis dans une cellule parmi des milliers d'autres cellules. Il y a une horloge en plastique ronde qui ressemble à une fleur verte. Le tempus absoluto, désormais, n'a plus de prise sur moi. Il s'en est retourné à sa place ordinaire dans l'univers. Personne ne le voit plus. Je ne dois plus compter le temps. C'est en prison que j'ai redécouvert les deux temps, l'absolu d'un seul bloc et celui fragmenté de l'horloge. À présent, j'ai ma montre, j'ai mes rêves. Et lorsqu'entre 2 voyages infinis au pays des rêves, je reviens en prison, je compte les œufs, les pousses d'herbe, les cris du hibou. Toutes les nuits, il ulule 3 fois.
On a écrit que ce livre était un exemple de résilience. Il est cela et encore plus, l'exemple d'une magnifique force de vie par la force de l'écriture. Un hymne à la liberté.
Zénon d'Élée, dans un célèbre paradoxe tant controversé, dit à peu près ceci. Un objet en mouvement n'est ni là où il est, ni là où il n'est pas. Or, il m'a toujours semblé, depuis ma jeunesse, que ce paradoxe s'applique davantage à la littérature qu'à la physique, ou plus exactement, davantage à l'écrivain qu'à autre chose. J'écris ces lignes depuis une cellule de prison. J'écris ces lignes depuis une cellule de prison. Quel que soit le récit que vous décidez d'entamer par cette phrase, elle suffit déjà à lui imprimer une vitalité farouche, à le faire retentir des accents tragiques d'une voix qui crie hors des ténèbres, à lui donner pour héros un révolté aux poses solennelles et enfin, sans en faire mystère, à attirer sur lui la compassion du lecteur. Phrase dangereuse, elle pourrait vous prendre par les sentiments. Et les écrivains, dès lors que leur but est d'émouvoir, savent faire de telles phrases l'irrésistible moyen de leur fin. Phrases qu'il suffit d'écrire pour attirer sur soi la pitié du lecteur, quand bien même celui-ci, pas dupe, saurait que c'est votre intention. Mais attendez un peu. Avant que résonnent pour moi les trompettes de la compassion, j'aimerais que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. Oui, je suis incarcéré dans une prison de haute sécurité, perdu au milieu de nulle part. Oui, je vis dans une cellule dont la porte s'ouvre et se ferme dans un tintement de métal. Oui, je reçois mes repas par un trou dans la porte. Oui, même le ciel au-dessus de la petite cour bétonnée où je tourne en rond est enfermé dans un grillage. Oui, il m'est défendu de voir personne en dehors de mes enfants et de mes avocats. Oui, il m'est interdit d'écrire ne serait-ce que 3 lignes. À ce que j'aime. Oui, si je dois aller me faire examiner à l'hôpital, il décroche une paire de menottes d'une patère et me les passe au poignet. Oui, chaque fois qu'il me sort de cellule, je m'entends hurler en plein visage « Lève tes mains, enlève tes chaussures !» Tout cela est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Les matins de printemps, quand les raies du soleil qui glissent à travers les barreaux viennent se planter dans mon oreiller comme des javelots scintillants, j'entends le pépiment joyeux des oiseaux qui ont posé leur nid sous les auvents de la cour et le craquement étrange des bouteilles d'eau que les prisonniers des cours voisines écrabouillent sous leurs pieds. Alors j'ai l'impression de m'éveiller dans la villa flanquée de grands jardins où j'ai passé mon enfance, ou bien, ne me demandez pas pourquoi, dans un hôtel parisien, au-dessus d'une rue gazouillante, comme celui du film Irma la Douce. Et quand je m'éveille au son de la pluie d'automne que le vent, dans son ire d'hiver, jette contre les barreaux, ma journée commence au bord du Danube, dans un hôtel au parvis illuminé de grands flambeaux. Puis, plus tard, au cœur de l'hiver, quand la neige suinte en se déposant sur le bord de la fenêtre, c'est derrière les vitres de la datcha où se cache le docteur Jivago que je m'éveille. Jusqu'à ce jour, pas un matin, je ne me suis éveillé en prison. La nuit, mes aventures sont encore plus trépidantes. Je m'en vais visiter les îles de Thaïlande, les hôtels de Londres, les canaux d'Amsterdam, le labyrinthe des rues de Paris, les restaurants d'Istanbul au bord du Bosphore, les squares de New York entre ses larges avenues, les fjords de Norvège, les villages engloutis sous la neige au bout des pistes d'Alaska. Vous me croiserez aussi sur le fleuve Amazon, les côtes du Mexique, les savanes d'Afrique. Toute la journée, je m'entretiens avec des êtres que personne n'a jamais vus ni entendus, qui n'existent pas et n'auront d'existence qu'au jour où je parlerai d'eux. J'écoute ce qu'ils se disent. Je partage leurs amours, leurs aventures, leurs espoirs, leurs angoisses, leurs chagrins et leurs joies. Parfois, je ris tout seul en marchant dans la cour. Il faut dire que leurs histoires savent être drôles. Et comme je ne veux pas, vu qu'on est en prison, prendre le risque de les coucher sur un papier, je les conserve soigneusement dans un coin de mon esprit, écrite à l'encre de mémoire. Je sais que tant que ces gens ne vivront que dans ma tête, je serai schizophrène, et quand, devenue phrase, ils peupleront les pages d'un livre, je serai écrivain. Et je me divertis beaucoup à balancer toujours entre la schizophrénie et la littérature. Disparaissant avec mes compagnons dans un nuage de poussière, je m'évade hors de la prison. Me jeter en prison était dans vos cordes, mais aucune de vos cordes ne sera jamais assez puissante pour m'y retenir. Je suis écrivain. Je ne suis ni là où je suis, ni là où je ne suis pas. Enfermez-moi où vous voulez. Je parcours encore le monde avec les ailes de l'imagination. Et bien que je n'en connaisse pas le quart. J'ai des amis aux quatre coins du monde qui m'aident dans mon voyage. Chaque œil qui lit les phrases que j'écris, chaque voix qui répète mon nom est comme un petit nuage qui me prend par la main et m'emporte dans le ciel pour survoler les plaines, les sources et les forêts, les rues, les fleuves et les mers. Et je m'invite sans un bruit dans les maisons, les chambres, les salons. Je parcours le monde depuis une cellule de prison. Ainsi qu'aisément vous l'aurez deviné, j'ai pour moi le divin orgueil des écrivains qu'ils confessent rarement et pourtant se transmettent depuis des millénaires d'une génération à l'autre. Et j'ai pour moi aussi cette confiance que la littérature, telle une coquille avec sa perle, m'a accordé de faire grandir en son sein. Et j'ai pour moi encore cette cuirasse faite de tous mes livres qui me protège et me rend invincible. J'écris cela dans une cellule de prison. Mais je ne suis pas en prison. Je suis écrivain. Je ne suis ni là où je suis, ni là où je ne suis pas. Vous pouvez me jeter en prison, vous ne m'enfermerez jamais. Car comme tous les écrivains, j'ai un pouvoir magique. Je passe sans encombre les murailles.
Actuellement, Ahmet Altan est toujours emprisonné. Faire connaître cet ouvrage, Je ne reverrai plus le monde, mais aussi ses autres écrits, comme Une blessure de sabre, paru en 2000, et L'amour au temps des révoltes, paru en 2008, c'est faire en sorte qu'il ne soit surtout pas oublié. L'émission était préparée et réalisée aujourd'hui par Paul et Monique, le montage par Claude Michel, et vous avez entendu quelques extraits de musique traditionnelle turque. Au revoir.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux.